France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, Gérard Darmon est mon invité, non seulement parce qu'on lui doit plusieurs albums enregistrés de sa belle voix grave entre deux tournages de cinéma, non seulement parce qu'il a enregistré une inoubliable carioca, mais encore parce que c'est un fou de chansons françaises, comme il l'explique dans un récent dictionnaire de ma vie. Gérard Darmon à ce micro dans quelques minutes, mais d'abord, hommage à celui qui fut un merveilleux interprète de l'opéra, de la mélodie, de l'opérette et de la chanson française.
S'ennuie, alors il leur rare, il leur rare, rive de prendre une plume et d'écrire un pot. Un poème, on comprend dans ces conditions que ça barre, ben peu quelquefois là. La poésie. Ce soir, si j'écrivais un poème pour la postérité, fichtre la belle idée, je me sens sûr de moi, j'y vais. Et à la postérité, j'y dis. Merde et remerde. Et re-remerde. Drôlement feintée la postérité qui attendait son poème. Drôlement feintée la postérité qui attendait son poème. Ah mais...
Un art poétique de Raymond Queneau, mis en musique par Joseph Cosma, avec au piano Bernard Ringhuysen et la voix de Jean-Christophe Benoît, à la fois, vous l'avez entendu, acteur, diseur, autant que chanteur et vrai musicien. Il nous a quittés le 21 février et je reviendrai en fin d'émission sur quelques aspects de sa merveilleuse palette artistique.
Thank you.
Tourbillon de Paris de Roger Roger, enregistré sous la direction de Jean-Christophe Keck. Et tiens, à propos de Jean-Christophe Keck, je voudrais vous dire combien je me réjouis que ce grand ami habitué du micro de France Musique et par ailleurs éminent spécialiste d'Offenbach soit enfin entièrement blanchi après les attaques injustes intentées contre lui dans le cadre de la succession de Roger Roger, compositeur auquel il se voue avec passion et désintéressement, comme le lui avait demandé Eva Roger, la veuve du musicien. La cour d'appel l'a enfin relevé de ce mauvais procès, je tenais à le dire, car en matière de justice, on parle plus souvent de condamnation que de leurs annulations.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais vous le savez donc, nous avons rendez-vous maintenant avec une grande figure du cinéma français. Il a joué tous les rôles, les petits, les moyens, les grands. Il a fait le tonton flingueur, mais incarné aussi des personnages plus touchants. Et puis c'est un passionné de musique, comme on le découvre dans son tout nouveau dictionnaire paru aux éditions Kéro. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Gérard Darmon.
Je voudrais seulement que tu reviennes, des larmes de pluie plein ton manteau, que tu me dises simplement je t'aime. Je sais, ce serait trop bon. Je voudrais surtout que tu me cajoles, que tu me réchauffes comme un oiseau, que tu me rassures, que tu me consoles. J'en demande un peu trop. Je voudrais seulement te chanter mon blues, avoir envie de m'étourdir, appuyer sur le bouton rouge qui ferait exploser mes souvenirs. Car je voudrais savoir lire dans les cartes, avoir des ondes au bout des doigts, connaître la seconde exacte où je saurais vivre sans toi. Je voudrais me rendre invisible pour ne faire qu'un avec ton cœur, redevenir indivisible, même pour un jour, même pour une heure. Je voudrais seulement te chanter mon blues, avoir envie de m'étourdir, appuyer sur ce bouton rouge qui ferait exploser mes souvenirs. Car
je sais. Bonjour Gérard Darmon.
Bonjour.
Je ne vais pas vous dire encore, vous avez une belle voix de crooner, parce que ça vous intimide un peu, non? On vous le dit souvent, non?
Oui, on me dit souvent ça, ça m'intimide pas, mais j'ai l'impression qu'une fois qu'on me dit ça, on a tout dit. Alors que j'ai envie d'entendre parfois d'autres choses.
Et bien justement, ouais. Moi ce que j'ai envie de vous demander, quand j'écoute ce titre, qui est le premier titre de votre premier album,
oui,
de chanteur,
oui.
Alors que vous aviez déjà une grande carrière d'acteur, oui. Vous vous rappelez comment vous l'avez fait ce morceau? Comment est-ce qu'il est né ce morceau? Signé Henri Salvador.
Oui, j'ai eu le plaisir, l'honneur d'accompagner Henri Salvador dans les 10-15 dernières années de sa vie. Voilà, ce texte est arrivé, je pense qu'il traînait, il avait dans un coin, il voulait la faire sans la faire. Bon bref, il me l'a présenté, je trouvais ça très bien pour une espèce de blues comme ça pour ouvrir l'album qui s'appelait Au milieu de la nuit. Donc voilà, c'était le thème. Si vous voulez, l'ambition était, c'était très ambitieux d'ailleurs, de réunir l'ancienne garde et la jeune génération.
Voilà, quoi. Parce qu'il y avait Severino,
Benabar, etc. Mickey 3D, tous ces gens qui ont ensuite explosé, ils n'étaient pas ce qu'ils sont devenus, quoi. Vous savez,
n'aviez pas vraiment programmé d'être chanteur, de faire. Vous adorez la musique, on va en parler, mais oui. Ça c'est arrivé aussi un petit peu presque sur commande.
Je reçois un coup de téléphone de Philippe Abitbol, qui était un ami depuis toujours et qui est aussi producteur de disques, qui me dit: je viens d'avoir un coup de fil un peu très particulier de Sony, de chez Sony, qui me demande si tu serais d'accord pour travailler, pour faire un album. Je dis: écoute, je suis très très surpris de ça, organisons un déjeuner. Donc on a organisé un déjeuner, j'avais pas grand chose à leur dire si ce n'est ce que je n'avais pas envie de faire, ce qui était déjà pas mal d'ailleurs. Et puis banco, on est parti là-dessus. Et on a commencé à essayer de trouver, de chercher des textes, des auteurs. J'ai essayé d'en écrire un moi-même. C'était très compliqué. C'est un vrai métier hein, de ouais. d'écrire, bien sûr, des textes. Un beau métier. Et donc voilà.
Donc vous l'aviez pas programmé, mais néanmoins, quand on ouvre ce livre que vous venez d'écrire, qui s'appelle Le Dictionnaire de ma vie, oui. on voit que la musique est partout. Oui. Et vous allez même jusqu'à dire que si vous deviez choisir entre les livres, les films et tout ce que vous emporteriez sur une île déserte, ce serait plutôt un disque, et un disque qui vous donne envie tout de suite de fredonner, parce que vous fredonnez tout le temps, vous chantez tout le temps.
Oui,
vous êtes un chanteur de douche aussi, vous l'expliquez.
Oui, c'est exact.
La musique, c'est votre vie.
Tout à fait. Je pensais rester un chanteur de salle de bain.
Voilà.
Ou de salon. Et puis non, ça s'est fait. Jamais de la vie je pouvais envisager d'entrer sur scène et d'aller faire un récital et un concert de 2 heures devant des gens, des spectateurs, un public, 1000 personnes, 800 personnes. Enfin, ça me paraissait tout à fait. C'était pas pour moi, c'était pas programmé. Et c'est pourtant ce qui s'est passé pendant une quarantaine de concerts. Donc ça a été un. Il y a vraiment après, avant cette aventure et après. Je suis plus du tout. J'ai appréhendé même mon métier d'acteur tout à fait différemment. Oui,
ah
tout
oui.
à fait. Oui. Au niveau des doutes, du trac, de la façon de mener les choses. Enfin, ça a été très déterminant pour moi.
On va revenir à vos goûts musicaux, Gérard Darmon. Mais une autre chose qui m'a frappé à première vue en lisant ce livre, ce dictionnaire de ma vie, c'est vous avez choisi beaucoup de thèmes. Profond, l'amitié, le doute, la famille, etc., l'idéal. Enfin, vous ne cherchez pas spécialement à raconter votre vie, vous cherchez, on a l'impression, à réfléchir sur des choses importantes pour vous.
Oui, c'est un constat, ouais. Probablement. mais c'est-à-dire que je suis parti du postulat que si on me propose de faire un dictionnaire de ma vie, je vais pas parler d'une poêle, d'une casserole, d'une corde de guitare cassée.
Non, mais vous parlez d'idées beaucoup.
Oui, je sais, mais parce que c'était une espèce de petit voyage initiatique comme ça, de retour sur soi, moi qui n'ai jamais été analysé, mais qui ai connu beaucoup d'analysants.
Oui, c'est la génération qui
voilà,
voit ça
bon,
aussi.
Oui, la génération, peut-être le métier aussi, je sais pas. Bref, moi j'ai toujours été à côté de tout ça, hein. Non pas en dehors, mais à côté. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, c'est bien de faire un petit bilan comme ça, de savoir où on en est, quelle définition tu avais de ce mot-là, de cette lorsque tu avais 20 ans,
oui.
Et quelle est ta définition, qu'est-ce qui est arrivé depuis? Voilà, donc c'est plutôt amusant comme exercice. C'est assez fatigant d'ailleurs.
Oui, c'est un gros travail.
Intellectuellement, bien sûr.
Alors, on va y revenir évidemment en détail, mais je propose qu'on remonte d'abord un peu en musique dans votre vie, tout simplement.
Oui.
Je ne porte pas de perlouse, je ne suis pas un nervi. Je trouve que ça fait tartouze, et c'est pourquoi moi je vous le dis, j'ai l'air de ne pas avoir l'air, mais avec mon air je fais la pige à bébé. Je suis un dur, un vrai, un tatoué, je fais pas des manias, qu'est-ce qu'on y gagne? Pour les tournants, moi faut pas me les jouer. J'ai risqué le bagne, faut l'avouer. J'ai bouffé du cannibale, j'ai même digéré des balles. Il en faut pour que je m'emballe, j'ai discuté. Car des bataillons d'Afrique, je porte la marque de fabrique. Et voilà tout le portrait d'un tatoué, d'un dur, d'un vrai. Quand je joue à la belote, au petit bistrot du coin, faut pas m'en mettre plein les bottes, car aussitôt je fais du foin. De quoi? Il n'y a pas de pourquoi. Les autres restent quoi? Alors je dis narquois. Je suis un dur, un vrai, un tatoué. Je fais pas des manies, qu'est-ce qu'on y gagne? Pour les tournants, moi faut pas me les jouer. J'ai risqué le bagne, faut l'avouer. J'ai bouffé du cannibale, j'ai même digéré des balles. Il en faut pour que je m'emballe, j'ai discuté. Car des bataillons d'Afrique, je porte la marque de fabrique. Et voilà tout le portrait d'un tatoué, d'un dur, d'un vrai.
Je cannibale. J'ai même digéré des balles. Il en faut pour que je m'envole. J'ai discuté, car des bataillons d'Afrique, je porte la marque de fabrique. Et voilà tout le portrait d'un tatoué d'endure d'un vrai.
Et le cher Fernandel, mais oui. J'aurais pu l'appeler, Raphaël le Tatoué, Riquet de la Bastille, par exemple.
Oui, Riquet de la Bastille, c'est mon père.
C'est votre père, oui, hein. Oui. C'était un de ses surnoms, bien avant votre naissance.
Oui, le principal surnom, c'était Trompe-la-Mort.
Trompe-la-Mort. Oui. Et il avait un côté voyou, comme ce Raphaël le Tatoué,
ah, tout
votre
à fait,
père.
Oui, ouais. tout à fait. Mais c'est un autodidacte total qui est sorti du ruisseau, qui a été confronté à la vie lorsqu'il avait 11 ans. Il avait 12 frères et sœurs, c'était les grandes familles d'Algérie, comme ça. 3 frères qui étaient partis aux Dardanelles, qui étaient morts. Donc il a fallu qu'il nourrisse cette famille. Et il n'y avait pas d'autre choix que de sortir de l'école. Et quand on quitte l'école à 11 ou 12 ans,
ouais. Voilà. On ne suit pas les chemins, vraiment.
Voilà, voilà.
Et il est monté à Paris, il est devenu un personnage, comme ça. Hein,
oui, il est monté à Paris, il est devenu un personnage. Il a eu une vie très tumultueuse et très, très rocambolesque, vraiment. J'ai écrit un livre là-dessus.
Voilà, vous avez consacré tout un livre, mais ouais, vous y revenez un petit peu, évidemment, dans votre dictionnaire, à ce père, par ailleurs un peu absent, on peut dire, d'ailleurs.
Oui, il était à la... Oui, parce qu'il était ailleurs, mais il était aussi là, hein, croyez-moi, que je savais ce que c'était que le poids de son regard.
Mais en plus, j'avais une autre raison de passer cette chanson, c'est que, vous, comme moi d'ailleurs, vous adorez Fernandel.
Oui.
Je sais pas si ça date de votre enfance,
oui.
Mais vous avez un projet qui rebondit, je vois, d'année en année.
Oui,
Fernandel, c'est moi, un
oui,
film.
Oui, tout à fait. J'ai écrit un scénario qui a été lu par beaucoup de personnes et qui plaît beaucoup et qui fait peur. Et c'est énormément parce que c'est un film un peu barré. Hein. C'est vrai que c'est un peu barré, mais...
C'est vraiment, ça a un lien direct avec Fernandel?
Oui, c'est-à-dire que Fernandel revient sur
Terre,
sur
aujourd'hui.
Terre, et il me choisit pour accomplir une mission.
Ah ouais?
Si cette mission n'est pas accomplie, il ne pourra jamais monter dans la lumière. Donc il me charge de le faire. Donc vous voyez, les quiproquos, c'est une histoire assez complexe.
Et c'est toujours pas tourné?
Non, c'est toujours pas tourné, mais je ne désespère pas de le faire.
Bon, et qui jouera Fernandel?
Ben ce sera moi.
Oui, voilà.
Oui. On le verra une fois vraiment dans le film. Et après le reste, il prend possession de mon corps. Donc ce sera ma tête, mais avec la voix et les gestes de Fernandel. Donc c'est ce qui va faire beaucoup de quiproquos.
Bon, je suis très impatient de le découvrir, en tout cas. Ça, c'était la musique, disons, du côté de votre père. Il y a aussi une chose très importante qui m'a beaucoup intéressé, c'est les musiques de votre mère, et notamment la merveilleuse Renette Loranaise.
Oui.
Ça, vous avez grandi aussi avec ces chanteuses algériennes, juives, dans une tradition arabo-andalouse, comme
absolument.
On dit, c'est ça?
C'est Lili Lambassi, Simi Al-Maghrebi, Sami Al-Maghrebi. Il y avait même les plus variétés. Il y avait Blond, qui était un albinos très connu. Lili Boniche, évidemment. Lynn Monti. Et Renette Loranaise.
Que vous avez vu de plus près que les autres, Renette Loranaise.
Absolument, oui, que j'ai vu de plus près, parce que je raconte cette anecdote encore une fois. parce que mes parents étaient dans un cabaret où elle chantait, et à l'époque il n'y avait pas de babysitter, vous savez, on prenait les enfants avec soi. Et
ouais.
Donc voilà, et donc je dormais à l'arrière de la voiture, ils avaient dit à celui qui gardait la porte de surveiller la voiture et au cas où de les prévenir. Je me suis réveillé, donc le gardien est venu, m'a pris par la main, il m'a amené vers mes parents. Donc déjà c'était un môme dans un cabaret, dans un lieu qui n'était pas fait pour lui. Et puis c'était Renette qui chantait, et on lui a dit qu'elle a senti qu'il y avait un enfant. Donc ça l'a interrogé. Elle était aveugle, vous savez, Renette. Donc elle a pris sa guitare, son roule, et elle a chanté. Et donc on m'a mis sur la table à côté d'elle, et je ne sais pas pourquoi je me suis balancé, j'ai dansé au rythme de ce qu'elle chantait. Ça a été l'attraction majeure de ce cabaret ce soir-là. Et je m'en souviens encore maintenant. Donc.
Un autre article auquel vous consacrez plusieurs pages dans ce livre, et qui est une expérience marquante de votre jeunesse, c'est le kibboutz. Et moi, ça m'a rappelé plein de souvenirs, parce que il me semble que quand j'étais tout jeune, même dans les familles pas juives, on allait dans les kibboutz. Il y avait une tradition d'aller passer quelques temps dans un kibboutz, oui. Et avec où on menait une vie un peu très très socialiste, je dirais. Hein. C'était la première tradition sioniste en Israël.
Absolument, oui. tout à fait. C'était même la seule expérience vraiment. Le seul lieu où l'argent n'était pas roi.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Il y a un vrai partage, avec malgré tout une intimité. On pouvait quand même, il y avait une certaine...
Ah oui, c'était pas totalement collectiviste.
Ah non, absolument pas. Non, pas du tout. Non, c'est très intéressant. J'avais 17, 18 ans. J'ai travaillé 4 mois là-bas. J'ai très vite perçu et senti que c'était pas ma vie, que l'expérience était magnifique. Et à l'époque, ouais, les kibboutzim étaient très importants économiquement pour Israël. Ils le sont plus du tout, même, enfin beaucoup moins, quoi.
Ouais.
Donc voilà, non, c'était vraiment, c'est une expérience inoubliable.
Voilà. Alors, des expériences, il y en a beaucoup dans ce livre. Et il y a encore quantité de souvenirs musicaux qui nous ramènent notamment aux années 60 et à certaines découvertes importantes que vous avez faites à ce moment-là.
Sont passées mes pantoufles, où sont passées mes pantoufles, où sont passées mes pantoufles, mes pantoufles, mes pantoufles, où sont passées mes pantoufles, où sont passées mes pantoufles, où sont passées mes pantoufles, mes pantoufles, mes pantoufles. Vous n'avez pas vu mes pantoufles, vous? Et vous, Blair, vous n'avez pas vu mes pantoufles?
Où sont...
L'homme qui a lancé le cha-cha-cha en France, l'excellent Jean Constantin. On est un peu avant 60, on est en 57.
58, ouais, j'avais 10-11 ans.
Et ça nous ramène tout ça au Monoprix de la rue de la Gaîté.
Oui. Je voudrais dire juste un petit mot sur Jean Constantin, parce que, bon, certes, on écoute ça, on écoute les pantoufles, on écoute le Pacha, etc., mais c'est un peu comme Salvador, c'est-à-dire, ouais, on peut pas juger Salvador sur Zorro est arrivé et Juanita Banana. Il y a aussi d'autres choses. Parce que cet homme-là, Jean Constantin, il a écrit la musique des 400 coups de Truffaut.
C'est
il
vrai.
A fait Mon ménage à moi pour Piaf.
Bien sûr.
Il a fait des chansons extraordinaires et éternelles. Et puis, il avait ce côté-là.
Cette
fantaisie, c'est un grand musicien, un très grand
sportif.
Musicien. Absolument. Sportif, assez rond. Et c'est grâce à lui que j'ai découvert pour la première fois Johnny Hallyday.
Voilà, et tout voilà. Ça passe, je le répète, par le Monoprix de la rue de la Gaîté.
Oui, parce que ma mère travaillait à ce moment-là là-bas, et pour ne pas que je sois toujours dans ses jupes, elle me confiait à sa copine qui était ouvreuse à Bobino. Elle était ouvreuse à Bobino, donc elle me prenait par la main, elle me disait « Tiens, assieds-toi là, tais-toi et regarde ». Et donc je les ai tous vus,
voilà.
tous. Marcel Amont, les compagnons de la chanson, Salvador, Barbara, Brassens, que j'ai découvert.
C'est extraordinaire,
Constantin,
quand même.
Dario Moreno.
Ah ouais?
Oui, j'ai eu une formation, en fait, musicale, beaucoup plus que théâtrale.
Oui, c'est ça, ce qu'on découvre dans l'article 60s de votre livre.
Hein. C'est le musical qui m'a donné envie de faire de la scène. Je pense c'est pas le théâtre.
Et voilà, ouais. Avec tous ces grands artistes qui, ouais, évidemment, n'étaient pas en plus forcément ceux que préférait votre génération. C'était une ouverture d'esprit parce que on écoutait quand même plutôt les Beatles et les Rolling Stones.
On n'était pas encore là. Ils n'étaient pas encore arrivés. On parle de 57, 58, 59. Ils vont arriver dans les deux années qui viennent.
Ouais.
Mais jusque-là, c'est toute l'ancienne génération. Ça va d'André Claveau à Tino Rossi,
bien sûr,
en passant, vous voyez, toute cette avec les grandes chanteuses. Frédéric Michel, Colette de Réal, enfin, tous ces gens dont on n'entend absolument plus parler, qui étaient de grandes vedettes de l'époque, vous voyez.
Et qui ne vous faisaient pas ricaner, comme la plupart des jeunes gens, un petit peu.
Non, mais à 10 ans, 11 ans, on ricane pas. On entend, on écoute, on est une éponge, vous voyez. Moi, j'écoutais ce qui va devenir le rail. Voilà, j'écoutais ça. Mon père écoutait de l'opéra, donc pour moi, c'était, voilà. Et puis, ces chanteurs-là, moi, c'est pour ça que j'aime bien le côté de thunes dans le bastringue, comme ça, le côté rengaine. Ça me dérange pas du tout. Il y a pas de racisme.
C'est Jean Constantin qui lance, si on peut dire, devant vous, Johnny Hallyday, justement.
Oui, enfin, devant la salle, il s'est interrompu pendant son concert. Il a dit, maintenant, je vais vous présenter un jeune homme qui est un peu nerveux. Vous allez voir qu'il a une façon de chanter un peu particulière. Et parfois, quand il est pas content, il se roule par terre. Voilà, il est très jeune. Et je lui prédis une très grande carrière, mesdames et messieurs, Johnny Hallyday. Et j'ai vu donc arriver un jeune homme magnifique, très, très beau jeune homme de 17-18 ans, tout habillé de dentelle, comme ça, noir, je m'en souviens très bien, avec une guitare claire, une demi-caisse, comme ça, claire. Et il a chanté deux chansons, Killy Watch et Souvenir, Souvenir. Et en se roulant par terre et tout ça, et j'étais, mais je n'en revenais pas de ce que je voyais. Évidemment, la salle était un peu perturbée parce que c'était quand même un peu les cheveux bleus. Hein, c'était un peu là, oui.
Oui.
Donc c'était ça. Et en même temps, j'étais fasciné par cette façon de d'appréhender la scène, de prendre l'espace. De je le formulais pas comme ça, mais ça m'a surpris, quoi. Ça m'a plu.
Voilà. Ouais. Alors un petit peu plus tard, donc ce que je disais, quand il a fallu choisir entre les Beatles et les Rolling Stones, vous, il n'y a pas eu d'hésitation, hein, ça a été les Beatles.
Oui, mais en réalité, on choisissait pas. C'était une fausse guerre, parce que les Stones, je les écoutais aussi, mais la vraie idolâtrie, enfin le véritable amour, le suivi, c'était avec les Beatles, oui, et Lennon-McCartney.
Alors on va revenir tout à l'heure, Gérard Darmon, à vos goûts musicaux et à vos aventures musicales, mais voilà, ensuite est arrivé le théâtre, décision à 18 ans, je vais faire du théâtre. Et oui. La rencontre déterminante, c'est passionnant avec ce professeur Bernard Bimont, oui, qui a été votre maître.
Oui, hein, absolument. Voilà. Absolument, totalement.
Vous rappelez en quelques mots qui était Bernard Bimont.
Bernard Bimont, c'était un professeur, il était à l'époque dans un cours, le cours Simon, qui était à l'époque un très grand cours.
Sûr, ouais.
Et où il y avait des grands maîtres de théâtre comme Henri Roland, comme Georges Leroy, qui était celui de Belmondo, de Gérard Philippe et tout ça. Il était dans cette classe-là et très vite, il a eu envie, il y avait une pédagogie, il a eu envie d'enseigner, donc il est allé vers l'enseignement. Et j'ai eu la chance de tomber sur lui. Et cet homme m'a ouvert l'esprit.
Voilà.
Vraiment. Il m'a préparé à la vie, à ma vie d'acteur. Il m'a fait découvrir les grands textes.
C'était rigoureux, hein.
C'était très rigoureux. C'était le contraire d'un. Oui, absolument. Ouais. C'était très rigoureux. Assez austère, même.
Voilà. Mais. Et vous dites que vous lui devez tout, enfin, oui, dans votre formation, en tout cas.
J'y pense tous les jours, quand je suis au théâtre.
Quand vous entrez sur scène, par exemple.
Avant d'entrer sur scène, j'y pense. J'ai une photo de lui dans ma loge. J'ai son bouquin. Voilà, j'y pense. Je pense à son enseignement que je distille maintenant, que je comprends. Parce qu'il ponctuait toujours ses explications par tu comprendras quand t'auras 40 ans ou quand t'auras 30 ans de plus. Et ça m'énervait parce que, intellectuellement, je comprenais évidemment très vite ce qu'il disait, mais je ne l'avais pas ressenti. Ouais. Je ne l'avais pas pris à mon compte, comprendre. Donc, voilà.
Vous avez presque failli entrer au conservatoire, et puis finalement, ça ne s'est pas fait.
Non, ça ne s'est pas fait, à une voix près. Parce qu'à l'époque, il fallait l'unanimité, il m'a manqué une voix, donc je n'y suis pas allé.
Et pourtant, Robert Manuel, vous aimez bien, et d'autres encore.
Oui, enfin, tous les autres, sauf une personne, une actrice qui était là, bon, qui m'a dit comme ça, de façon un peu docte, vous n'avez pas le profil de la maison, donc voilà. Et le profil de la maison, ça voulait dire quoi? C'est déjà un premier délit de gueule pour moi, j'ai pas du tout aimé.
C'est ça, vous ne correspondiez pas physiquement à un des emplois
parce que, à l'époque,
dont on avait besoin à la Comédie-Française, d'une certaine
façon. Oui, c'était on était dans le blond, dans le bleu, dans la perfection.
Vraiment,
oui, on était dans le Jean-Pierre Aumont, dans le Gérard Philippe, dans le Jean Marais.
Ouais, c'est ça.
C'est après que sont arrivés les gueules cassées d'Amérique avec Pacino, De Niro, tous ces grands-là. Mais sinon,
il y en avait eu pourtant beaucoup dans le cinéma français.
Pas mais énorme. Pas énorme. C'était des deuxièmes, trois, quatrième rôles, et pas beaucoup. Quoi. Ou alors un talent exceptionnel comme Michel Simon. Mais ça, mais il avait cette gueule cassée, mais française. Moi, ouais. Il y avait le côté Rastaquer, métèque, quand même, ouais. qui était là. Oui, pied noir que je ne suis pas d'ailleurs, ouais. Parce que je ne suis pas né en Algérie. Moi, je suis né à Paris. Donc voilà, il y avait ce côté-là, et ça m'avait beaucoup heurté, beaucoup blessé.
Et finalement, c'est en quelque sorte, on peut dire, Jean-Michel Ribes qui vous a ouvert les portes du métier.
Exactement. C'est lui que j'ai rencontré.
Par le biais du café-théâtre.
Hein. Absolument. Je l'avais déjà rencontré quand j'étais au cours chez Bimont, mais comme avec cet enseignement un peu austère et tout ça, je ne m'estimais pas prêt lorsqu'il m'a proposé son premier spectacle, j'ai envoyé un ami, qui a d'ailleurs été engagé. Là, je l'ai retrouvé 15 jours après ce refus au conservatoire, comme quoi les choses s'enchaînent très très bien. Il jouait à l'époque un spectacle succès, c'était l'âge d'or du café-théâtre, hein, qui s'appelait Les Fraises Musclées.
Les Fraises Musclées,
oui, absolument. Voilà. Et oui, tout est parti de là. Et puis voilà, donc il m'a engagé, j'ai voulu travailler avec lui, je lui ai dit, j'ai passé une audition, il m'a pris, et puis on a enchaîné 5 spectacles ensemble.
Et côté cinéma, vous vous rappelez le tournage de votre petit rôle dans Rabbi Jacob ?
Oui, je m'en souviens très bien, puisque j'étais pas encore vraiment acteur, j'étais encore au cours,
ouais.
Mais j'avais déjà un bébé, puisque j'ai eu ma première fille à 20 ans. Donc faire du cinéma, c'était vraiment enfin même pas le rêve, c'était un autre monde, quoi. Moi, ouais, j'étais parti pour être un homme de troupe.
Vous n'y pensiez pas.
Non, j'y pensais pas, ou alors je faisais semblant de ne pas y penser. Je ne sais pas, ouais. Ça me paraissait tellement inaccessible. Je connaissais personne, ni de ma famille, il n'y avait pas aucun artiste, et puis personne. Une seule personne. Margot Capelier, qui était
grande directrice,
grande de casting, juste avant la génération, j'allais dire l'ancêtre de Émilie Besnard, mais pas du tout, juste avant lui, qui m'a un jour, voilà, je sais pas pourquoi, elle m'a croisé, j'ai dû lui plaire, elle m'a convoqué, elle m'a demandé si ça m'intéressait de faire 3 jours dans un film de Gérard Houry avec De Funès, etc. Je dis bien sûr, trois jours, c'était au niveau du salaire, c'était extraordinaire.
C'était énorme.
Ouais. C'était énorme pour un jeune acteur que j'étais. Donc il fallait faire, bouillir la marmite. Donc j'ai accepté. Et en réalité, ces 3 jours ont duré beaucoup plus longtemps, ont duré 15 jours. Parce qu'il y a eu ce fameux épisode du bac de chewing-gum dans lequel on tombait, de Funès et moi.
C'était pas très sain. Hein.
C'était pas très sain parce qu'on a eu, d'abord ils ont discuté toute une journée, c'était le cinéma à l'ancienne, est-ce que le colorant va être rose ou vert. Donc c'était avec Gérard Houry et son écharpe de metteur en scène et son manteau sur les épaules en cachemire qui regardait vers le ciel et les petits assistants derrière et toute cette cour de gens que je ne connaissais pas qui me terrifiaient parce que j'ai l'impression que tout le monde était important, sauf moi bien sûr. Donc voilà, pour savoir. Donc ils ont dit que c'était du verre. Bon, ok, c'était le verre. Et c'était de la pâte à crêpes de chez le nôtre, que tous les matins ils livraient. Voilà, bah oui, c'était pas du chewing-gum, sinon c'était infernal. Donc on est tombé dans cette pâte à crêpes. Le premier jour, j'ai eu très très mal aux yeux. Ma cornée a été complètement déchirée, décollée. Personne m'a calculé parce que bon, j'étais une merde, personne ne faisait pas attention à moi, c'est très militaire le cinéma. Hein. Et puis le lendemain de Funès a eu la même chose. Et là, tout à coup, le monde s'est arrêté. Là, on s'est arrêté, on a pris conscience que c'était dangereux. Donc donc un ophtalmo est arrivé, il nous a soignés tous les deux. Et mes conversations, donc le principal de ma conversation, c'était la santé de nos yeux avec De Funès, je m'en souviens.
Ah, vous en avez quand même parlé avec lui.
Ah mais bien sûr, voilà. on se proposait de se mettre mutuellement des gouttes dans les yeux. J'étais aux anges, moi. Hein. Vous pensez bien que jeune acteur, dévorant, je regardais ce monstre, comment il fonctionne, comment c'est fait, comment il est avant le clap, comment il est pendant la prise, comment il est après le clap. J'ai appris, ça valait 6 mois.
Vous l'admirez autant que Fernandel?
Non, c'était pas la même chose du tout. Okay. Non. Fernandel, il y a quelque chose, je ne sais pas. Il y a un affect, il y a quelque chose je sais pas, presque. J'aimais l'air, j'allais dire. C'est très, 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 très bizarre. Comme...
En tout cas, on va regarder la scène du chewing-gum différemment maintenant. Après vous avoir entendu. Quand on la regarde là-bas, chez nous.
Non, ça aurait été formidable.
En tout cas, Gérard Darmon, tout à l'heure, vous nous avez dit au début de cet entretien, effectivement, mon premier disque 2003, au milieu de la nuit. C'est votre premier disque. C'est loin d'être votre première chanson enregistrée. Il y en a au moins une qui est même devenue une chanson culte.
Sais-tu danser la carioca? Ce n'est pas un foxtrot ou une polka. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Pour la comprendre, suis bien mes pas.
Ce n'est pas un tango ou un cha-cha. Encore moins une bossa nova. Quand t'as goûté à cette danse, là tu ne peux plus faire que ça.
You. Dansons la carioca, c'est bien, faites tous comme moi. Youpi, avec la carioca, tant pis s'il faut dire aux autres danses au revoir.
C'est 10 ans avant votre premier album, 94.
Oui, mais alors ça, c'était une blague. Hein, c'était plutôt, enfin, on l'a fait sérieusement, mais c'était plutôt une blague. On a travaillé très sérieusement la chorégraphie, surtout.
Mais alors, comment est-ce que les nuls sont venus vous chercher pour ce film?
Il faudrait leur demander. Je pense qu'ils étaient un peu dans le chagrin parce qu'ils venaient de perdre Bruno Carrette. Et puis moi, je venais de faire leur émission Les Nuls le samedi soir, qui était l'émission de la télé de Canal. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Ils me l'ont demandé. C'est vraiment un cadeau royal qu'ils m'ont fait. J'étais très touché parce que ce commissaire Bialès, en réalité, il est encore là, quoi. On m'en parle. J'ai trouvé en écoutant comme ça, parce que ça fait longtemps que j'avais pas écouté ça, que Chabat avait des accents de Gainsbourg dans ses jeunes années. Hein. Ouais. C'est drôle.
Ça vous agace pas quand on vous ramène facilement, comme ça, par exemple, à cette chanson-là, ou à votre rôle dans Cléopâtre, etc.
Mais non, mais je les ai fait, c'est là, donc voilà. Au contraire, je me dis, tiens, c'est drôle comme les choses perdurent et persistent, quoi.
C'est plutôt agréable.
Oui, oui. Ouais. C'est très agréable. Et puis bon, il y a parfois, on est un peu plus fatigué, donc c'est un peu moins agréable. Et puis parfois, on se rend compte que les gens ne connaissent que ça.
Que ça, c'est plus embêtant, ça.
Bon, allez, c'est un peu limité. Mais sinon, c'est plus agréable, oui.
Alors, il faut dire que, bon, ça, c'est 94, mais en réalité, vous aviez vraiment fait vos débuts au cinéma depuis assez longtemps. Oui. Et c'était même des débuts assez réussis, on peut dire, avec Jean-Jacques Benex, avec Arcadie, voilà. Avec Tony Gatlif.
Tony Gatlif.
Ouais. C'était un début plus que prometteur. Hein.
Oui, alors là, pour le coup, c'est Besnard qui est venu. Je jouais avec Bacri dans un café-théâtre. Un spectacle de fou qui s'appelait Les Catcheuses. Et puis il est venu un soir, il a adoré ça, et puis il est venu me voir, il m'a dit, écoute, il y a un jeune metteur en scène qui est en train de préparer son premier film, je pense que ça peut coller avec lui, tu devrais aller le voir, tiens, vas-y, il s'appelle Jean-Jacques Benex. Et je suis allé le voir, et ça... Alors au départ, c'est très bizarre, parce qu'au départ, il m'a dit, j'aurais adoré travailler avec toi, parce que ça me plaît bien ce que tu es, mais je n'ai plus aucun rôle. Aucun rôle d'un truc. Il me dit, il y en a un que tu aurais pu faire, c'est l'Antillais, mais je l'ai donné à... qui était à la Comédie Française, et voilà. Et je ne sais pas pourquoi, dans une espèce de pressentiment comme ça, je dis, mais il le fera pas, lui, c'est moi qui vais le faire, parce qu'il va se casser la jambe.
Et Il s'est cassé la jambe.
Mais bon, donc je m'en suis voulu parce que je me suis dit, mais c'est pas possible.
C'est vous.
Je suis le diable. Ça m'a tenu encore des années, ça, avant de me convaincre que je ne l'étais pas. Donc ça fait partie de mes égouts, hein, mes profondeurs.
En tout cas, dans cette période des débuts au cinéma, je vous signale, encore 10 ans avant la Carioca, vous avez aussi chanté, par exemple, dans Le Grand Carnaval d'Arcadie, vous chantez en duo.
Ah oui, avec Bacri, oui.
Exactement.
Absolument, oui, bien sûr. Non,
donc ça vous titillait déjà de chanter quand même.
Ah oui, non, mais moi j'ai toujours adoré. À chaque fois que j'avais l'occasion de le faire dans les films et tout ça, c'était formidable. Mais vous savez, entre chanter dans sa salle de bain, dans sa cuisine, ou même dans un film... Ouais. Pour une scène précise, C'est pas la même chose que de d'envisager de faire un album et de se dire je vais aller comme je l'ai fait à l'Alhambra ou à la Cigale, comme je l'ai fait aussi. Vous voyez, c'est pas du tout. Voilà, donc je veux bien chanter dans des bar mitzvah, moi, ça me dérange pas, mais c'est pas pareil, quoi.
Gérard Darmon, donc je disais, ses débuts au cinéma ont été plus que prometteurs, et puis après, bah c'est la formule quand on parle de la vie de Verdi. Il a fait des grands opéras qui ont eu beaucoup de succès, puis après il a traversé ce qu'on appelle les années de galère. Je ne sais pas si l'expression convient pour vous, mais voilà, il y a eu carrément des hauts et des bas dans toutes les années qui ont suivi dans votre carrière.
Oui, mais je pense que c'est inhérent à chaque, enfin, chaque parcours d'acteur. Hein. Voilà, moi, si vous voulez, j'ai une façon peut-être d'appréhender le métier avec, qui fait que le parcours est un peu plus chaotique, voilà, parce que j'ai l'impression de moins faire de compromis ou de concessions que certains, que j'ai pas vraiment de réseau, que je suis pas toujours en train d'appeler, que je participe à tous les festivals, à tous les cocktails, à toutes les avant-premières.
On vous colle des étiquettes aussi, enfin, en France, facilement, le mauvais garçon de service.
Oui, mais les étiquettes, par définition, c'est fait pour être décollé. Hein. C'était un moteur pour moi, justement, de trouver la bonne vapeur pour décoller cette étiquette. Donc pendant les 5 ou 6 premières années de cinéma, ça a été le mauvais garçon, le deuxième couteau, le machin, celui qui la sale gueule, etc. etc. Et puis 37-2 est arrivé. Et là, tout d'un coup, c'était le pizzaïolo, l'ami d'Anglade. Là, ça a commencé à faire rire. Et puis, les comédies ont commencé à venir. Et là, on a tout oublié, le gitan, le... Bon, mais tant mieux. Et puis, heureusement que j'ai pas accepté tous les rôles après le Grand Pardon.
Notamment après le Grand Pardon. Noir, voilà, justement, on voulait faire de vous un pied noir du cinéma.
Le pied noir officiel du cinéma.
Et vous avez préféré faire le gitan.
J'ai fait le gitan et grand bien m'en a pris parce que vraiment j'ai rencontré un très grand cinéaste et les princes faisaient vraiment partie de mes 3 films que j'ai dans le cœur et vraiment que je ne regrette pas d'avoir fait. Qu'on a fait, c'était un peu rock'n'roll hein, quand même. On n'avait pas de pellicule, ils trouvaient ça dans les poubelles comme Cassavetes. J'étais plutôt voilà, donc ça c'est un grand moment pour moi.
Vous avez insisté sur les comédies, c'est vrai que vous en avez fait énormément. Mmh. C'est un genre que j'aime plus que tout, mais ce qui est parfois un petit peu moins pris au sérieux que le film plus sombre, plus grave, etc. Oui. Vous revendiquez l'amour de la comédie.
Oui, non, mais ce qu'il fallait, c'était alterner, et puis la qualité du rire, vous savez, c'est ouais. je le dis souvent, parce que je parle souvent de...
Il y a d'ailleurs un article sur l'humour hein, dans votre dictionnaire.
C'est vrai qu'on pleure des mêmes choses, mais on ne rit pas des mêmes choses. Hein, donc l'humour justement c'est très particulier. Peut-être si on voit le même film tous les deux, on va pas rire au même endroit. Il y aura des choses qui vous auront plu. Alors que si ça devient tragique et que le petit enfant à la fin voit son père partir et pleure comme dans The Champ, on va pleurer au même endroit. Hein, c'est clair, on aura les mêmes frissons. Donc c'est très 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 bizarre le rire.
J'aime bien celle-là que vous citez, que je connaissais pas. L'humour juif, c'est comme l'humour allemand, mais avec l'humour en plus.
Voilà, exactement.
Elle est très bonne. Bon, on avance un peu, Gérard Darmon, aussi sur votre parcours musical. Et évidemment, après, là, pour le coup, après votre premier album, Au milieu de la nuit, et avant votre second album, vous avez eu une grande aventure musicale avec un grand monsieur de la chanson française.
Le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits des bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes aux reflets de ciel bleu, de mirage, traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord, j'aimerais barbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la mer, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait un pénible soleil.
Dans les bars, à la tombée du jour, avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main.
Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève. où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve.
Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Un beau jour, sur un rafio craquant de la Cocopon, pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon.
Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre, où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant, m'a-t-on dit, de ces colliers de fleurs qui enivrent.
Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords, sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort.
Voilà le fameux duo Darmon et Aznavour. Il y avait Roche et Aznavour au début de sa carrière, et puis un peu plus tard, il y a eu Darmon et Aznavour.
Vous n'imaginez pas comme ça m'émeut d'entendre ça, franchement. Et c'est pas une émotion sur moi, sur mon nombril. Ça m'émeut parce que j'ai encore beaucoup de mal à parler de Charles comme ça, et en restant tout à fait serein. Je suis toujours envahi par le chagrin, par la épidermiquement, il y a quelque chose qui se passe. J'ai tellement bien connu, on a tellement fait des choses formidables ensemble que voilà.
Vous le connaissiez avant de tourner ce film d'Edmond Ben Simon qui s'appelle Emmenez-moi, donc, le titre du film.
Je vous engage à voir ce film. Franchement, c'est un petit bijou. Je vous le dis avec tout mon cœur et toute ma sincérité. Ce film Emmenez-moi, où il y a Charles d'ailleurs.
Ouais. Vous chantez beaucoup de ses chansons.
Oui, alors je chante non pas comme Darmon qui va chanter,
non.
Ni même comme en imitant Aznavour.
Mais je comme chante, le personnage.
Comme le personnage, cette espèce de.
Dites-nous en deux mots,
De vieux légionnaire de 50-55 ans qui n'a qu'un seul héros dans sa vie, une seule raison d'être et de vivre, sa conscience, c'est Aznavour. Et les paroles de ses chansons, c'est tout. Donc il habite Roubaix et il décide un jour d'aller voir Aznavour qui passe au Palais des Congrès pour ses 80 ans. Et il décide de faire le voyage à pied. Et cette espèce de parcours, de voyage initiatique, il va rencontrer des personnages haut en couleur. Et puis je vous raconte pas la fin parce que je vous engage à le voir.
Sûr.
C'est vraiment un petit bijou de film.
Et alors donc, vous connaissiez déjà Aznavour avant le tournage?
Oui, il savait que j'étais un fan absolu, parce que j'allais le voir tout le temps, lorsqu'il passait, où qu'il soit.
Ouais.
Et puis lorsque je l'ai connu, après je l'ai suivi un peu partout. De temps en temps, je prenais un avion pour New York, j'allais l'écouter chanter, j'allais à Londres, au Royal Albert Hall, à Nice, il savait pas que j'arrivais. Bon voilà, des choses comme ça, Non, Charles, c'est vraiment...
Voilà, Emmenez-moi en témoigne, en tout cas, c'est un film de 2005.
Vous vous rendez compte que j'ai eu la chance de chanter ça avec lui, chanter...
Vous rappelez l'enregistrement, c'est passé
bien
où,
sûr, je chantais au Palais des Congrès,
Congrès.
Où il passait justement d'ailleurs. Et ce jour-là, il était très 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 enrhumé, c'est vrai. Ça, de chanter la bohème avec lui, de chanter Tu te laisses aller à l'Opéra Garnier pour les enfants d'Arménie avec... j'ai des souvenirs absolument magnifiques.
Alors, sans vouloir du tout relativiser votre amour d'Aznavour, le vrai chanteur de votre vie, c'est quand même plutôt Brassens.
Non, mais...
n'empêche pas l'autre.
L'un n'empêche pas l'autre. Brassens, c'est... Voilà, il n'y a rien à dire sur Brassens. Moi, lorsque je l'ai vu du haut de mes 12 ans...
Toujours à Bobino, oui.
Oui, il m'a tout de suite... plus impressionné, j'ai adoré ce visage où il y avait tout, il y avait une espèce de bonté comme ça, de bienveillance, d'extrême timidité, de pudeur, et en même temps, et puis dans les yeux, un amour fou, quelque chose de une tendresse, quoi, une humanité qui m'a beaucoup touché. Je ne le formulais pas comme ça lorsque j'avais 12 ans, mais pourquoi j'étais sensible à ces textes, bon, je ne sais pas, c'est parce que c'est comme ça.
Vous adorez la fessée.
Ce sont les nouvelles chansons, j'allais dire, mais enfin, tout son répertoire, quoi. Oui, vraiment, il y a rien à jeter chez Brassens.
On sent votre amour de la chanson, évidemment, Gérard Darmon, et alors c'est peut-être une des raisons qui vous ont conduit finalement pour votre deuxième album à faire beaucoup d'hommages hein, à des chanteurs et à des chansons.
Oui,
c'était pas... en 2006 pour le coup et ça s'appelle Dancing.
Oui, alors ça c'est pas la seule raison. L'autre raison c'est que je faisais déjà partie des Enfoirés, vous savez, des ouais. Restos du cœur. Ouais. Donc on côtoie beaucoup de chanteurs, de chanteuses, etc. L'autre raison c'était que fort de mon premier album qui était sorti ouais. 2 ans avant. On se rend compte tout à coup que quand on est acteur, les professionnels de la profession, soi-disant très ouverts et très, vous voyez, très ouverts à tout, etc., sont extrêmement fermés lorsqu'ils voient arriver un chanteur. D'abord, ils le regardent en oblique, en pensant qu'il ne sait pas chanter. Alors, dans quelques cas, c'était vraiment vrai.
Il y a malheureusement, on pourrait faire la liste.
Oui, bon, d'accord. Mais, au moins écouter quoi. Donc je vais et puis oui, ça n'a pas un chanteur, un acteur, ça n'a pas de voix, ça susurre, l'autre avec sa grosse voix, il peut faire des talk-overs, c'est-à-dire parler sur des textes et puis ça suffira. C'est pour ça aussi que j'aime pas beaucoup quand on me dit tu as une belle voix, parce qu'on me l'a proposé 1000 fois de faire ça sur des textes, j'ai 1000 fois refusé. Et puis je me suis dit bon ben je vais faire un hommage un album de comment dirais-je de reprise, ce qui pour un deuxième album c'est quand même bizarre. Et j'ai tapé dans tout ce que j'aimais, aussi bien français.
Pas seulement français, voilà.
Oui, oui, que qu'anglais, qu'espagnol.
Le fameux mambo italiano.
Oui, le mambo italiano, c'est comme ça que j'ai fait mon album chez Universal cette fois-ci, parce que j'étais plus chez Sony. Voilà, ça c'est il fallait montrer que j'avais envie de leur montrer que je pouvais aussi pousser la voix, mais entre-temps ce que je ne voudrais pas oublier de vous dire, c'est que j'ai essayé de savoir ce qu'était ce monde, comment ça fonctionne un chanteur. Ça fonctionne pas comme un acteur. Au niveau de la voix, de la respiration, c'est quoi pousser une note, c'est quoi tenir une note. Salvador me donnait des conseils.
Vous avez travaillé la voix?
Ah oui, ouais. beaucoup, absolument. Le souffle, la tenue, le silence, comment reprendre, comment mordre dans le mot, comment. Enfin, vous voyez, ça m'intéresse. J'aime bien ce côté un peu technique que le public ne doit pas connaître ça. C'est pas grave. J'en parle là parce que vous me le demandez. Vous me l'avez pas demandé. Non,
c'est très intéressant, mais vous avez bien fait. C'était ça figuré dans la suite.
Et donc voilà, je suis un peu allé voir comment c'était fait. Donc j'avais envie de la pousser un peu, puis de savoir où je pouvais aller, les capacités vocales, jusqu'où je pouvais aller. Et je me suis surpris. Pardon, ça a l'air d'être. J'ai l'air d'une espèce d'autosatisfaction comme ça. Mais je me suis surpris. Je pensais pas du tout que je pouvais chanter aussi grand, aussi fort, aussi comme ça. Ça m'a plu par rapport à mon premier album qui était un peu plus intime, mais qui me ressemble évidemment plus à mon premier album, c'est sûr. Donc voilà.
Tiens, encore un petit coup de chapeau à Henri Salvador.
Oui.
Quand je monte, je monte, je monte, je monte chez toi. J'ai le cœur qui saute, qui saute, qui saute de joie. Et dans le petit escalier qui n'en finit pas de monter, j'aime, 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 j'aime venir chez toi. Même, 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 même si c'est haut chez toi. Oh, si ne t'étonne pas, si j'ai le cœur qui bat. Quand je monte, je monte, je monte, je monte chez toi. Tu n'as qu'un petit 7e de banlieue, et tout près d'un lit de bois. Un joli carré de ciel toujours bleu, qui s'allume sur les toits. Là où je sais que tu m'attends et je prends tout mon temps. Quand je monte, je monte, je monte, je monte chez toi. J'ai le cœur qui saute, qui saute, qui saute de joie. Et dans le petit escalier qui n'en finit pas de monter. Oh, j'aime, 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 j'aime venir chez toi. Même, 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 même si c'est haut chez toi. Oh, si ne t'étonne pas, si j'ai le cœur qui bat.
quand je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Chérie, quand je monte chez toi.
Un extrait de Dancing. Alors c'est là, c'est vous-même qui vous accompagnez presque complètement.
Oui,
hein,
je voulais faire ce que faisait souvent Henri Salvador. Et j'ai tout fait tout seul. Il y a juste une basse, mais le reste,
tout est vocal, tapé sur les cuisses.
Absolument. Ouais. J'ai tout fait tout seul. Et je me rends compte d'ailleurs que les petites éclats de rire, tout ça, ça ressemble beaucoup à lui, mais c'est moi. C'est pas du tout.
Salvador, en tout cas, complice, hein, on peut dire.
Oui, grand complice. Oui. On est allé à Las Vegas ensemble.
À Las Vegas, vous avez joué ensemble.
Oui, absolument, oui. absolument. Et je peux vous dire que c'est lui qui m'a mis au lit, hein, c'est pas moi. Absolument. Oui.
En tout cas, voilà, on sait que vous aimez la chanson maintenant. Et puis, alors, finalement, je continue à regarder dans tout ce que vous avez fait parce qu'on a quand même une discothèque bien fournie à Radio France, plein justement de coups de chapeau, d'hommages, de duos. C'est peut-être les souvenirs de votre enfance à Bobino. Mais voilà, il y a Enrico Macias pour ses 50 ans de carrière. Il y a Marcel Amon pour un disque. Il y a Gilbert Bécaud pour un autre disque, etc.
Oui,
vous aimez bien faire ça.
Oui, mais parce qu'on me le demande quand il était question de rendre hommage à Bécaud, qui est un chanteur dont on parle, enfin, je trouve qu'il a pas trouvé sa place posthume encore.
Non, c'est vrai, il est même souvent un petit peu dédaigné, on peut dire.
C'est dommage parce qu'il a quand même fait quelques chefs-d'œuvre. Ouais. Voilà, donc j'ai chanté La Solitude, je crois, avec Benabar.
Ouais.
Et
Marcel Amon, ce cher Marcel.
Parce que je le connais, qu'un jour il m'a dit, voilà, je vais faire un album, j'ai demandé à Agnès Jaoui de le faire un titre, est-ce que toi tu veux bien en faire un avec moi? Je lui ai dit, Marcel, quand tu veux. Bon, on a fait ça très vite, et puis, voilà, mais je...
Et Enrico Macias, dont vous vous moquiez un petit peu quand vous étiez yéyé.
Oui, mais Enrico, c'est devenu un grand ami. Je veux dire, c'est comme mon frère Enrico, vraiment, ouais. sans jeu de mots. Et donc, à chaque fois qu'il fait l'Olympia, il me demande de chanter. Il m'a dit un jour, est-ce que tu veux en chanter une avec moi à l'Olympia? Je lui dis oui. Il me dit laquelle? Et je ne sais pas pourquoi, je vais trouver un titre qu'il n'avait pas chanté depuis 30 ans, qui s'appelait Sans voir le jour. C'est une chanson sur un aveugle, etc., que j'ai beaucoup aimé. Son fils, Jean-Claude Grenassier, a refait des arrangements, et on a fait ça ensemble, et j'ai adoré. Non, mais Enrico fait partie de ma vie, je le vois tout le temps, je l'appelle tout le temps, on a tourné ensemble, d'ailleurs on travaille ensemble en ce moment. C'est quelqu'un d'extrêmement intime, proche.
Alors dans le chapitre sur la musique de votre dictionnaire de ma vie qui vient de sortir, donc Gérard Darmon, vous évoquez tous ces artistes dont on vient de parler, mais vous dites aussi au fond vous aimez toutes les musiques, vous écoutez toutes sortes de musiques, vous nourrissez de musique, mais ça peut être des concertos, des chanteurs de variété, des opéras, du jazz, tout voilà. Vous avez besoin de tout ça.
Le jazz acide, le jazz plus pointu, la musique du baroque. J'écoute souvent, enfin pas souvent, mais de temps en temps, les moines de l'abbaye de Solesmes, de choses comme ça un peu calmes, qui vous élèvent un peu, qui vous met dans une espèce de mood un peu particulier. C'est très beau, des messes, des missas, les classiques, en veux-tu, en voilà. J'ai la chance d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique à la maison. J'écoute beaucoup de vinyle aussi. Le jazz, bien sûr, les grands du jazz. Je me rends compte qu'on n'a pas encore parlé de Sinatra, peut-être que ça va venir.
On va en parler.
D'accord.
Il y a une autre occupation, d'ailleurs, quand vous savez pas quoi faire, Gérard Darmon, ou quand vous avez des insomnies, mis à part écouter de la musique, c'est regarder des conférences de presse du général de Gaulle.
Ouais, entre autres, oui. Non, mais je suis un fan de Lina, moi. Je trouve que Lina est un
c'est vrai. Et nous travaillons beaucoup avec.
Ah, franchement, c'est vraiment la mémoire, les racines, hein, de la France depuis, quoi, à la radio depuis 1900, je sais plus combien, mais enfin, ça remonte très très loin. Je trouve ça extraordinaire de vouloir entendre ou voir quelque chose, de le demander et de l'avoir, quoi. C'est vrai. Je dois dire que il m'arrive d'écouter parfois des conférences de presse ou des débats présidentiels ou des interviews comme ça de personnages. Beaucoup de Gaulle parce que
ces conférences de presse, quand même,
c'était incontournable. Voilà.
Et c'était pas forcément facile d'aimer, parce que vous racontez que vous avez finalement toujours aimé de Gaulle, même à l'époque de 68 où c'était pas dans les l'air du temps pour votre génération. Oui. Et même dans votre famille venue d'Algérie, où ce n'était pas un milieu non plus tellement gaulliste.
Ah
hein.
Non, c'était le contraire même. Hein. C'était oh, et non, il était traité de tous les noms d'oiseaux par des gens qui étaient particulièrement crétins d'ailleurs, mais bon, qui pensaient que c'était l'autre le crétin. C'est toujours comme ça. Mais je parle des oncles, hein, tout ça, qui a l'impression de faire de la grande politique et d'avoir un œil tout à fait aigu sur le monde. Mais j'ai jamais voté. Je votais pas pour lui, mais c'était. J'avais conscience de vivre, de voir un grand personnage. Oui, absolument. Et j'aimais cette façon de parler. J'aimais cette façon de traiter les gens. Je comprenais pas grand chose à sa politique intérieure. J'aimais bien la politique extérieure. J'aimais bien ce qu'il racontait du panache de la France. J'aimais bien cette idée de la France, donc qu'il a développé pendant toutes ces années-là. Cette espèce de grand bonhomme, ce grand nez, ces deux grandes oreilles, ces caricatures d'éléphants, de rois, je sais pas, ça me fascinait. Ça m'a pas empêché de me faire courser aussi en 68 par les CRS et d'être contre tout ça, vous voyez. Mais bon, j'aime bien le personnage.
Tiens, à propos de grands personnages, en voilà deux, un homme, une femme, Armstrong, Fitzgerald.
Ah oui, mais ça fait partie de mon quotidien aussi. Oui.
I won't dance.
Si tu veux.
Think of what you're losing by constantly refusing to dance with me. You'd be the idol of France with me. And yet you stand there and shake your foolish head dramatically while I wait here so ecstatically. You just look and say emphatically,
not this season. Yes, there's a reason. I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, madam, with you. My heart won't let my feet do things they should do. Yes, you know what? You lovely. So what? You still lovely. But oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that bumps on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor. Yes, when you dance, you jump in and you're gentle. Especially when you do the continental. But this feeling isn't really mental. For heaven rest us, I'm not asbestos. And that's why I won't dance. Why should I won't dance. How could I won't dance. My sleepy cool. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance.
I won't dance, monsieur, with you. My heart won't let my feet do things they should do. You know what? You're handsome, and so what? You're handsome, but oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that's bumped on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor. When you dance, you're charming and you're gentle. Especially when you do the continental. But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, I'm not asbestos. And that's why I won't dance. Why should I won't dance. How could I won't dance. Merci beaucoup. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance.
Yes, I won't dance. Don't ask me. I won't dance. Don't ask me. I will not dance, madam, with you. Yes, my heart won't let my feet do things they should do.
Yeah, you know what? You kinda lovely.
And so what? I'm lovely.
But oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that's bumped on the shores. I feel so absolutely stumbled on the floor.
When you dance, you're charming and you're gentle, especially when you do the continental.
But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, I'm not asbestos, honey.
Whoa. And that's why I won't dance.
Oh, yes.
Why should I? I won't dance. How could I? I won't dance. Merci beaucoup.
Yeah, merci beaucoup.
I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I will dance.
Ah, vous me gâtez, là, parce que...
Oui, et là, et Louis.
Oui, c'est deux des plus belles voix du monde. Hein,
1957.
Quand même, la richesse de la voix d'Armstrong et celle de Fitzgerald. C'est le deuxième album qu'ils faisaient ensemble, parce qu'il y a eu d'abord un Ella et Louis, et là c'était Ella et Louis Again.
Again. Again. Voilà.
Et c'est somptueux.
Gérard Darmon, vous venez de publier Le Dictionnaire de ma vie, où il est beaucoup, beaucoup question de musique,
oui.
On l'aura compris. Il y a une chose qui m'a frappé. Il y a un article, un grand article qui s'appelle Théâtre, et il n'y en a pas qui s'appelle Cinéma.
Mais parce que j'en parle à travers tout ça, je voulais pas que ça devienne un livre d'un acteur du métier sur lequel donc de placer. Je crois que j'ai mis cuisine, c'est quoi c'est le nom? Qu'est-ce que j'ai mis assez cuisine, ouais, c'est ça. Hein. J'ai dû mettre cuisine, ouais. Oui, parce que bon, j'ai parlé du théâtre à travers le théâtre. Non, je parle du cinéma.
C'est très intéressant parce qu'on voit que vous êtes quelqu'un qui est né pour faire du théâtre et qui finalement a fait une carrière de cinéma.
Oui, oui, oui.
Même
sûr.
Si vous faites aujourd'hui
bien
à
sûr.
Nouveau,
bien sûr, bien sûr,
pas mal de théâtre.
Mais parce que ça fait partie intégrante de ma vie aussi le cinéma, vous voyez. Ouais, donc j'en parle tout le temps, hein, comme ça, c'est en filigrane.
D'accord, ça n'a pas de sens particulier.
Non. Mais c'est ce que je mets en avant-propos. C'est-à-dire que si je devais refaire ce dictionnaire de ma vie, probablement je choisirais d'autres mots et ce serait tout autre livre. Ce serait toujours moi, mais ce serait d'autres versions. Quoi.
Mais néanmoins, quand vous montez sur les planches aujourd'hui, vous avez un plaisir particulier qui vous est nécessaire autant que celui du cinéma.
Oui, absolument, même plus. Bien sûr, oui, non, mais ça se mérite, hein, tout ça. C'est un parcours, c'est un chemin, il faut le faire.
Ouais.
Et quand on se trouve, on se sent bien sur une scène, sur un plateau, c'est la récompense de tellement d'angoisse, de questionnement, de souffrance, de contradiction, de déchirure, de blessure, de joie aussi, hein, mais bon, voilà, quoi, c'est, Il faut bien qu'il y ait un sucre à la fin quand même, tu veux, sinon ça vaut pas le coup.
Quelques mots, Gérard Darmon, de votre troisième et pour l'instant, mais provisoirement, dernier album qui s'appelle On s'aime.
Oui, je suis en train d'en préparer un quatrième.
Voilà,
oui,
justement. Oui. Mais dans celui-là, Marc Lavoine a joué un rôle important.
Oui, là c'était l'équipe du Cœur des Hommes. Ouais. Alors là, tout à coup, c'était un album qui était au plus près de moi. J'attendais cet album-là pour pouvoir faire un mixte des trois albums et d'aller présenter ça sur scène. Avec les deux premiers, j'étais sur le bord.
D'accord.
du voilà. J'osais pas encore me lancer. Celui-là, c'est autre chose. Mais disons que c'est à la limite la frontière d'où je veux aller comme chanteur. C'est au niveau de la variété. Après, après, j'assume plus. J'aime pas trop les chansons gays, moi. J'aime bien les choses un peu
mélancoliques.
J'aimais surtout Aznavour quand il chantait l'amour et la tristesse, pas quand il chantait. Chansons gays, je trouve que ça lui allait moins bien, quoi. C'était pas très net, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, non. Oui, c'est un bel album aussi.
Ah
c'est...
oui, très beau, moi, je trouve.
Oui. C'est très près de moi. C'est des choses. Je pensais à une chanson, Les rues de ma jeunesse, qui était vraiment ce que j'ai vécu, voilà.
Et la chanson titre qu'on va écouter aussi,
On s'aime, absolument. C'est une chanson de scène, ça marchait très très bien sur scène.
Et le quatrième, ce sera quoi alors?
Le quatrième, je pense que je vais écrire un peu plus de textes, voilà, parce qu'en définitive, qui peut mieux parler de moi que moi? mais ce sera pas un album sur moi, mais vous voyez ce que je veux dire, un point de vue, quoi. En tout cas, je vais y participer beaucoup plus. Et puis, je voudrais rencontrer des gens, j'aimerais bien, comme ça, Biolay, lui en parler, j'aimerais bien, Mathieu Chédid, j'aime bien la jeune scène, comme ça, il y a des gens qui écrivent très très bien, puis d'autres aussi, Elisa Point qui a écrit pour moi dans le premier album. Puis des musiques. Il y a Christophe Cazenave avec qui j'ai fait le troisième album qui est là. Ce sont des rencontres, vous savez, c'est pareil. J'aime la mer, t'aimes l'océan. J'aime l'été, t'aimes le printemps. T'aimes l'aurore, j'aime le soir. J'aime le rouge, tu aimes le noir. On s'aime, t'aimes la danse, j'aime la musique. J'aime New York, t'aimes l'Amérique. J'aime les bruns, j'aime les blondes. T'aimes la terre, j'aime le monde. On s'aime, on s'aime. Malgré nos écarts et nos différences, on a la même part d'enfance. On s'aime, on s'aime. Malgré nos écarts et nos différences, on a appris la confiance. J'aime la grâce, t'aimes la beauté. T'aimes l'instant, j'aime l'éternité. J'aime le silence, tu aimes le bruit. Tu aimes la vie, j'aime notre vie. On s'aime, on s'aime.
On s'aime, c'est aussi le titre de l'album de Gérard Darmon en 2008. Gérard Darmon oui. Était avec nous ce matin parce que malheureusement on va bientôt se quitter, Gérard. Mais oui. Bon. Puis, en plus, on va aborder les sujets qui font mal avant de se quitter.
C'est-à-dire
vieillir. C'est un des sujets de votre dictionnaire.
Oui.
Vous abordez de front avec une phrase terrible de Sioran. Tiens, la vieillesse en définitive n'est que la punition d'avoir vécu. Wow.
C'est Sioran. Voilà, c'est comme ça. Sioran, il faut le lire quand on est bourré de vitamines, hein, et à ne pas dépasser la dose prescrite, c'est-à-dire 4 lignes par an. Sinon, on peut y rester. Non, c'est un magnifique écrivain. Mais ça fait mal. Il a dit une autre chose aussi qui était magnifique. La lucidité, c'est l'automne de l'instinct.
Eh oui.
C'est-à-dire que tout d'un coup, vous savez, quand on se prévaut de, oui, non, mais je suis très lucide, moi, sur les choses, je suis très, très lucide. Oui, mais c'est l'automne de l'instinct. Et là, tout d'un coup, on prend un coup de pelle derrière la tête et on se dit, ouais, on perd un peu de fraîcheur.
En tout cas, vous luttez contre le c'était mieux avant, contre tous les travers qui nous guettent.
Je déteste ça. Je n'aime pas du tout le c'était mieux avant parce que parfois, ce n'est pas vrai. Ouais. Et puis, c'est une espèce de nostalgie qui engendre un peu toujours le pathos et le, je sais pas, j'ai l'impression de prendre 200 rides quand je dis c'était mieux avant. J'aime pas ça.
Il y a peut-être certaines choses qui étaient mieux avant d'ailleurs.
Oui, mais quoi, lesquelles?
Oui. D'autres qui sont moins bien maintenant.
Oui, voilà, probablement, mais bon, c'est autre chose. C'est une autre époque, c'est un autre moment. Hein, voilà. Je suis pas un adepte du c'était mieux avant. Moi.
En tout cas, voilà, ce livre est bourré de réflexions qui nous parlent et avec toujours.
De Pardieu aussi.
Il y a un bel article sur Depardieu que vous connaissez à peine. Mais auquel vous rendez un grand hommage.
Je ne connais pas.
Voilà, il y a un bel article sur le western et le whisky et d'autres encore. Oui. Et puis il y a le remède qui parcourt le livre, c'est la musique.
Oui.
Et parmi ces remèdes, moi je dirais qui vous sont les plus chers. Peut-être il y a Frank Sinatra.
Ah oui.
Ah oui.
Là c'est le Graal.
Le Graal. Finissez avec votre rencontre de Frank Sinatra, Gérard Darmon.
J'ai eu le plaisir et la joie, l'honneur, je sais pas comment on peut dire, de le rencontrer, d'échanger avec lui et même de dîner.
C'était à l'hôtel de ville.
Nous étions pas que tous les deux. Hein, j'étais à sa table et c'était. Oui, c'était d'abord la première fois à la remise de médaille. C'est Chirac qui lui avait remis la médaille de vermeil de la ville de Paris. Donc il est venu avec Sammy Davis et Liza Minnelli.
Oui, pas mal.
Voilà, donc je les ai côtoyés pendant une heure, etc. Et puis ensuite, après, lorsque... Mais c'est trop long, on n'a pas le temps, je peux pas vous raconter toute l'histoire.
La soirée, quand même.
Simplement, je suis allé dans un restaurant italien, dans le 15e, là-bas, avec lui, après son concert. Et j'ai vécu une... Je suis arrivé très très vite et très tôt, et lui aussi, car il avait sa voiture carrément garée sur scène. Donc on s'est retrouvés dans ce restaurant tous les deux. On a eu le temps de boire un whisky ensemble, et eu le temps d'ouvrir son petit paquet de Camel et de m'en offrir une, des petites sans filtre. Et quand même, quand je réalisais, je savais plus ce qui m'arrivait, moi. J'étais en train de fumer une clope avec Sinatra et de boire son whisky. C'était comme ça me suffisait. Je pouvais m'arrêter de vivre. Et bon, voilà, ses yeux bleus, c'est Ava Gardner derrière, enfin, je suis Sinatra, quoi. Tant qu'il y aura des hommes, la mafia, le tout, l'immense chanteur. Et Anthony Quinn disait, quand on a cette voix-là, on peut pas tout à fait être un homme mauvais, parce qu'il a été vraiment décrié avec
ses relations.
Oui, mais qu'il est un ange. Est-ce qu'il faut être un ange pour intéresser les gens? Je sais pas. Vous savez, il a fait énormément de choses sur le plan charismatique. Il a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de sa personne. Et je suis certain que c'était un tendre. D'ailleurs, morphologiquement, il a pas du tout un visage de méchant, de pincé, de comme pouvait l'avoir, par exemple, Henri Fonda ou chose comme ça. Je sais pas pourquoi je parle de lui d'ailleurs. Enfin bon, sa fille ne doit pas m'écouter, donc on peut y aller. Fonda, s'il m'écoute. Voilà. Donc j'ai une véritable, mais parce que c'est un exemple, c'est une admiration. Mais comme je vous parlais d'Aznavour, c'est pareil. C'est des gens qui ont tellement travaillé sur leur métier, 100 fois comme on dit, et qui sont arrivés à un tel dépouillement. Charles, quand il faisait un geste sur scène, ça pesait 3 tonnes, parce qu'il en faisait pas 10 000, il en faisait un ou deux dans une chanson, c'est tout. Et Sinatra pareil.
Bon bah écoutez, on a compris qu'on a encore plein de choses à se dire, Gérard Darmon,
oui.
Et qu'on va pouvoir continuer un de ces jours, j'espère, cette conversation sur la musique.
Je vous en prie.
Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci de m'avoir invité, c'était très agréable.
You see a pair of laughing eyes, and suddenly you're sighing sighs. You're thinking nothing's wrong, you string along, boy, then snap. Those eyes, those sighs, they're part of the tender trap. You're hand in hand beneath the trees, and soon there's music in the breeze. You're acting kinda smart until your heart just goes whap. Those trees, that breeze, they're part of the tender trap. Some starry night, when her kisses make you tingle, she'll hold you tight, and you'll hate yourself for being single. And all at once it seems so nice. The folks are throwing shoes and rice. You hurry to a spot that's just a dot on the map. You're hooked, you're cooked, you're caught in the tender trap. Some starry night, when her kisses make you tingle, she'll hold you tight, and you'll hate yourself for being single. And all at once it seems so nice, the folks are throwing shoes and rice. You hurry to a spot that's just a dot on the map. And then you wonder how it all came about. It's too late now, there's no getting out. You fell in love, and love is the tender trap.
Love is a Tender Trap, c'était Frank Sinatra en 1955. Et puis donc, bien sûr, vous pouvez écouter ou réécouter les disques de Gérard Darmon qui vient de publier Le Dictionnaire de ma vie aux éditions Kero. Softer Gallo, un petit chef-d'œuvre de Johann Strausberg par l'Orchestre Philharmonique de Vienne sous la direction de Claudio Abbado.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et puis je voulais terminer cette émission par un petit hommage en musique à Jean-Christophe Benoît qui nous a quittés cette semaine. Je me rappelle bien d'ailleurs la première fois que je l'avais rencontré au cours d'une réunion avec Marcel Landowski où il s'était beaucoup inquiété, Jean-Christophe Benoît. Ça m'avait frappé du fait qu'on abandonne trop le répertoire musical français. Alors je l'avais invité peu après au tout début d'Étonnez-moi Benoît en 2000 pour aborder tous les aspects de son art, qu'il s'agisse d'opéra, de chansons, d'opérettes, de mélodies, de musique contemporaine. Et puis j'ajouterai que Jean-Christophe Benoît était le frère de Denise Benoît, autre artiste qui a, à sa façon, accompli d'une façon merveilleuse l'alliance de la comédie et de la chanson, et qui était, vous le savez aussi, la mère de notre amie productrice Anne-Charlotte Raymond, à laquelle nous pensons évidemment en ce jour ou presque de disparition de Jean-Christophe Benoît. J'ai retrouvé dans notre discothèque un petit disque de vieilles chansons de France, justement, où l'on entend ensemble Denise Benoît et Jean-Christophe, le frère et la sœur, avec au piano Olivier Alain.
Jean de Montfort, duc de Bretagne, mourut en 1345.
Aidé de sa femme, Jeanne de Flandre, il avait longtemps défendu son duché contre le roi de France.
La légende populaire a identifié sa noble image à celle du cygne et chanté pour lui une belle complainte.
Voici le cygne de Montfort qui fait blanchir la mer au bord.
C'est le duc Jean au casque d'or.
Messire Jean est de retour, haut et guetteur monte à la tour.
Et que l'ennemi ne claque au jour.
Les monts du Laz ont tressailli, la mer bondit, ennemi jaillit, l'été revient sur le pays.
Ô Notre-Dame de l'Armor, préservez-nous de l'âpre mort,
de la défaite et du remords.
Bam, 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 bam. Oh. Bam, 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 bam.
Le foin est mûr,
qui fauchera,
les blés sont mûrs,
qui les prendra.
les morts qui les recueillera.
Bam, 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 oh, bam, 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 bam.
Traître, pensez au jugement, le temps viendra prochainement. Comptez vos ans soigneusement.
Bam, 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 oh, bam, bam.
Jean-Christophe et Denise Benoît dans le Signe de Montfort, hein, 45 tours du Club National du Disque. Et puis bien sûr, le grand art de Jean-Christophe Benoît, c'était la mélodie française. Je vous en propose une de Francis Poulenc, Jouer du bugle, sur un poème de Max Jacob avec au piano Jacques Février.
Les trois dames qui jouaient du bugle tard dans leur salle de bain ont pour maître un certain mufle qui n'est là que le matin. L'enfant blond qui prend des crabes avec la main, ne dit pas une syllabe, c'est un fils adultérin. Trois mères pour cet enfant chauve, une seule suffisait bien. Le père est nabab, mais pauvre, il le traite comme un chien. Cœur des muses, tu m'aveugles, c'est moi qu'on voit jouer du bugle.
Francis Poulenc par Jacques Février et Jean-Christophe Benoît. Et puis bien sûr, dans cette émission, je ne pouvais pas ne pas terminer par un peu d'opérette. Jean-Christophe Benoît, on a enregistré beaucoup, notamment d'Offenbach, mais c'est une rareté que j'ai préféré ressortir. Une opérette viennoise en version française, La Divorcée de Léo Fall, où l'on goûte encore tout l'art d'acteur-chanteur de Jean-Christophe Benoît.
Alors, j'ai eu beaucoup de chagrin, je me suis dit, quittons ce monde plein de soucis, douleur profonde d'un cœur trahi. Dans la nuit grise, viens agonise, c'est devenir fou. Tendre apaisement pourra descendre sur ton amant. Sois oublié, oh bien aimé. Plaignez l'amoureux, ne plaignez pas le joueur. C'était la première fois que je risquais de l'argent qui ne m'appartenait pas. Ce fut la plus belle émotion de ma vie. Quant à la table, au tapis vert, joie ineffable, je gagne ou perds. À mal défendre mon pauvre argent. Quand je perds ma chemise, c'est leur excuse.
Jean-Christophe Benoît dans La Divorcée de Léo Fall, encore un enregistrement rare du Club National du Disque qui a fait des merveilles dans les années 50 et 60. L'orchestre était placé sous la direction de Jean Laforge. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurtre préparée par Annie Comier. Aujourd'hui à la technique Stéphane Poitevin avec Déborah Dagobert, réalisation David Travailleur. Et on se retrouve bien sûr samedi prochain. J'accueillerai Caroline Loeb pour parler notamment des chansons de Françoise Sagan. D'ici là, bon week-end à tous sur France Musique où vous retrouvez maintenant Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.